Les grands entretiens de Storia Voce. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Marie-Gwen Carichon.
Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur Storia Voce pour une nouvelle édition de nos grands entretiens. L'année 1534 est une date fondatrice, une date symbolique pour l'histoire de la colonisation et plus particulièrement l'histoire des Amériques. Pourquoi ? Parce que c'est le début de la série des trois voyages entrepris par Jacques Cartier, que vous connaissez tous, pour explorer et coloniser le Canada. On oublie souvent que ce phénomène de colonisation fut long. Il ne fut ni simultané ni consécutif à la première phase de contact entre les Européens et les Amérindiens. Et alors, comment pouvons-nous aujourd'hui appréhender cette période de contact, le premier moment où les Européens ont découvert le sol du Canada? Parce qu'il nous en reste, c'est le principe de l'archive, et ce qui nous en reste de plus matériel, ce sont les objets matériels trouvés notamment dans les sépultures des Amérindiens. Une histoire de la Nouvelle-France par ses objets, et par ses objets symboliques entre autres, c'est ce que nous propose l'historien Laurier Turgeon avec son nouveau livre, je cite, « Une histoire de la Nouvelle-France, français et amérindien, au XVIe siècle » qui est paru aux éditions Belin en 2019. Bonjour Laurier Turgeon.
Bonjour.
Vous êtes historien et ethnologue à l'Université de Laval au Canada, je précise. Vous êtes également membre de l'Académie des arts, lettres et sciences humaines de la Société royale du Canada et vous avez publié notamment un ouvrage, Patrimoine métissé, contextes coloniaux et post-coloniaux, un livre qui a reçu le prix Luc Lacourcière en 2015. Alors, votre dernier ouvrage chez Belin est un petit peu particulier parce que vous allez appréhender cette histoire du Canada par les objets, en fait, que se sont échangés les Européens et les Amérindiens. Et en introduction, vous nous dites que ce qui peut nuire à la recherche historique, et notamment à la recherche sur la Nouvelle-France, c'est le regard européen centriste que l'on peut poser, en fait, sur les Amériques. Qu'est-ce que ce regard permet comme histoire ? Quelle est l'histoire d'habitude qu'on fait de la Nouvelle-France ?
Oui, ben c'est ça. Traditionnellement, on va favoriser évidemment l'utilisation des sources européennes, françaises pour la partie qui porte sur l'Amérique française, anglaise pour la partie qui porte sur l'Amérique britannique. Il est sûr que lorsqu'on utilise que des sources écrites, on a forcément toujours la perspective qui est plutôt européenne et c'est beaucoup plus difficile d'appréhender la perspective amérindienne. On peut le faire jusqu'à un certain point parce que l'analyse critique des récits de voyage, l'analyse littéraire nous permet, en favorisant des approches critiques, de décontextualiser, de déconstruire un peu ce discours colonial qu'on retrouve en filigrane dans les textes écrits et même dans les archives souvent, mais il n'en demeure pas moins que il y a des limites à ce que on peut faire avec des sources européennes, surtout si on veut s'intéresser à la perspective amérindienne et si on veut essayer d'équilibrer un peu les interprétations et les regards pour tenir compte davantage de la perspective amérindienne.
Est-ce que vous raccrochez à une école historique plus large ? Est-ce que vous pouvez nous citer d'autres historiens qui ont eu cette démarche de partir des objets pour écrire l'histoire notamment d'une rencontre entre deux peuples ?
Bien, je me suis beaucoup inspiré des travaux qui sont faits par les archéologues. Les archéologues en Amérique du Nord fouillent des sites amérindiens depuis maintenant plus d'un siècle et ils ont fouillé des centaines et même des milliers de sites en Amérique du Nord-Est. On dit même que c'est une des régions des deux Amériques qui a connu le plus grand nombre de fouilles archéologiques. Les sites amérindiens pré-contact ou disons préhistorique et les sites de contact et même les sites amérindiens qui ont continué à être occupés pendant la période coloniale ont fait l'objet de beaucoup de sites et de beaucoup de fouilles archéologiques les objets. Les collections archéologiques ont été beaucoup étudiées et il a été possible, par exemple, d'établir des chronologies des chronologies de l'occupation des sites depuis l'époque préhistorique jusqu'au 18e siècle et donc de reconstituer l'évolution de la culture matérielle amérindienne pendant ces longues périodes et surtout de voir apparaître les objets européens sur ces sites amérindiens qu'ils ont appelés sites de contact, c'est-à-dire à partir du moment où on commence à trouver, où les archéologues commencent à trouver du matériel européen qui est intégré au matériel amérindien sur ces sites. On les appelle des sites de contact parce que, bon, on trouve du matériel provenant des deux cultures. Donc je me suis inspiré beaucoup de ces travaux qui ont été faits par les archéologues qui n'ont pas été très exploité par les historiens jusqu'à maintenant. Alors, c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est de lier lier l'approche archéologique et surtout les connaissances qui ont été produites depuis plusieurs décennies par les archéologues aux sources écrites françaises, notamment les récits de voyage. Mais j'ai aussi dépouillé une source qui avait été très peu dépouillée jusqu'à présent. Ce sont les actes notariés des ports maritimes français de cette époque.
Alors, les Européens, vous nous l'avez dit longuement, ils écrivent, mais les Amérindiens n'écrivent pas ou peu?
Exactement. Alors, c'est la raison, les peuples amérindiens étaient des peuples pratiquaient l'oralité. Ils avaient des traditions orales qui étaient très développées, des transmissions de récits qui étaient transmis de génération en génération, mais ce sont des peuples sans écriture. Alors donc, d'où l'importance de trouver des moyens pour interpréter comment eux ont perçu et vécu ces contacts avec les Européens. Et donc, la culture matérielle est une source privilégiée, justement parce que nous n'avons pas d'écrit. Et on peut difficilement, il y a très peu de récits oraux de cette période qui ont survécu. On retrouve des récits oraux qui peuvent remonter chez les groupes amérindiens, qui peuvent remonter au 19e siècle, qui semblent relativement fiables, mais des récits oraux qui remontent aussi loin dans le temps, c'est-à-dire quatre siècles, c'est à peu près inexistant. Donc, pour les Amérindiens, l'archive archéologique, en quelque sorte, l'objet matériel, reste la source la plus fiable et la plus riche en enseignements.
Alors, on imagine souvent, et vous le rappelez dans votre livre, qu'il y a eu la phase de contact et puis une colonisation rapide, très homogène sur le territoire. Et c'est pour ça que vous consacrez une grande partie à cette partie initiale de début d'échange, de début de contact entre les deux peuples. Combien de temps elle a duré, cette phase, et elle est caractérisée par quoi?
Oui. C'est quand même une période qui a duré un siècle, c'est assez long, et on n'avait pas jusqu'à présent soupçonné qu'il y avait eu une aussi forte présence européenne et notamment française dans cette région des Amériques. Les recherches que j'ai menées à partir des archives notariales et puis ensuite les résultats de fouilles archéologiques ont permis de montrer que entre les voyages de quartier qui ont eu lieu entre 1534 et 1542 et les voyages de Samuel de Champlain, qui conduisent à la fondation de la première colonie permanente française à Québec en 1608, eh bien, il y a eu beaucoup d'activités et une activité très, très importante qu'on n'avait pas soupçonnée jusqu'à présent. Alors, là, grâce aux archives, même, je veux dire, dans les manuels d'histoire chez nous, et puis même en France, et puis dans la plupart des, aux États-Unis, c'est à peu près la même chose, on a tendance à présenter cette période comme une sorte de terra incognita, pour reprendre une expression qui apparaît sur les cartes de l'époque, c'est-à-dire une période où il y a à peu près rien qui s'était passé, parce qu'on n'avait tout simplement pas de documentation sur cette période. On avait les trois récits de Jacques Cartier, qui sont très élaborés, et puis après ça, les récits de Champlain, qui sont aussi extrêmement importants, qui représentent plusieurs volumes, des milliers de pages, vous voyez. Mais entre les deux, on n'avait à peu près rien, et bon, lorsqu'on ne sait pas, justement, on a tendance à conclure que lorsqu'on n'a pas d'informations, qu'il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. Alors que je dois dire que ce sont d'abord les archéologues qui m'avaient mis sur la piste, parce que eux trouvaient du matériel européen sur ces sites amérindiens depuis un bon moment, et ils avaient l'impression que ce matériel apparaissait bien avant le début de la colonisation au XVIIe siècle. Hein, parce que, bon, la colonisation, l'implantation de colons de façon, une population permanente sur le territoire commence pour la France avec l'installation de Champlain en 1608. Et après ça, vous avez en 1607 la Virginie avec John Smith, les Anglais. Puis après ça, la Nouvelle-Angleterre à partir des années 1620. Il y a beaucoup de colons qui s'installent en Nouvelle-Angleterre. Donc, les archéologues trouvaient du matériel qu'ils pensaient plus ancien et avaient de plus en plus de preuves pour démontrer cela. Et donc, il y avait aussi eu des recherches, mais un peu épisodiques, dans les ports français par des historiens spécialistes des ports, de l'histoire des ports comme Bordeaux. L'historien Jacques Bernard, par exemple, professeur à l'Université de Bordeaux, avait trouvé des documents dans les actes notariés de Bordeaux qui indiquaient que les pêcheurs avaient commencé à aller à Terre-Neuve et puis en Amérique du Nord-Est dès les années 1510-1520, et que cette activité avait pris de l'ampleur par la suite. Alors, c'est ce qui m'a amené à examiner de façon plus systématique, hein, ces actes notariés. Et puis là, ça a été une manne, parce que là, je suis tombé sur plus que des centaines, des milliers, hein, d'actes, des milliers d'actes. Et puis, avec des étudiants français, des étudiants québécois, on a dépouillé plus de 6000 actes notariés qui attestent et donnent de l'information sur ces voyages vers le Canada.
Oui, donc beaucoup de sources pour votre ouvrage, beaucoup oui. D'archives.
Oui. Bien, il faut dire que bon, les actes notariés nous donnent des informations intéressantes, mais ce sont toujours des bribes, et donc il faut en dépouiller beaucoup pour constituer des corpus qui nous donnent une idée, une vision d'ensemble, si vous voulez, hein, de l'activité par année, mais aussi de l'évolution de l'activité sur une longue période, vous voyez, comme ça. Alors donc, finalement, on a dépouillé à peu près 6000 actes entre la fin des voyages de Cartier, c'est-à-dire 1540, pardon, et 1605, vous voyez.
Donc, quatre chapitres pour traiter quatre objets, ça peut prêter à sourire quand on voit les objets que vous avez choisis. Donc la morue, le castor, le chaudron et les perles européennes. Puisque oui, vous allez aussi parler d'objets européens qui, eux, ont été emmenés aux Amériques. Alors pourquoi le choix de ces quatre objets? Est-ce que c'est parce qu'ils vous permettent de développer une thématique particulière chacun? Est-ce que c'est pour leur symbolique?
Oui, bien... Je dirais peut-être d'abord que j'ai décidé de faire cette histoire à partir des objets parce que c'était possible de tenir davantage compte de la perspective amérindienne, étant donné que nous n'avons pas de sources écrites pour, ou très peu de sources écrites pour les Amérindiens, et en tout cas pas de sources écrites de leurs mains. Et puis même pour les Français, j'avais pas beaucoup d'informations sur les personnes, que des bribes d'informations sur les personnes. Alors, ça devenait difficile d'écrire finalement sur des personnes de façon précise. Alors que j'avais beaucoup plus d'informations sur les objets, donc je me suis dit, il vaut mieux que j'aborde cette histoire à travers les objets. Et donc j'ai choisi 4 objets. 2 objets de provenance, disons, américaine, qui étaient en fait les 2 objets les plus recherchés par les Français à l'époque, la morue et le castor. Et puis ensuite, j'ai choisi 2 objets, les 2 objets les plus recherchés par les groupes amérindiens, le cuivre, notamment sous forme de chaudron, et puis les perles de verre et de coquillages, qui étaient aussi très recherché par les groupes amérindiens. Alors, je suis parti du principe que ce serait intéressant aussi d'aborder cette histoire à travers l'échange de ces objets, parce que, ça a été la principale activité pratiquée par ces 2 groupes. À l'époque, les Français connaissaient pas les langues amérindiennes, de même les Amérindiens ne connaissaient pas vraiment les langues françaises, la langue française, je veux dire, ou peut-être que je devrais dire les langues françaises, parce que on parlait encore beaucoup le breton, le normand et le basque.
Ils ne sont pas des patois, c'est important de le préciser.
Oui. Et donc c'était une façon d'essayer de reconstituer la principale activité qui avait lieu entre ces 2 groupes, qui est une activité d'échange d'objets. Hein. Après ça, l'idée c'était d'essayer de comprendre le sens de ces échanges, pourquoi ces objets, qu'est-ce qu'ils faisaient avec les objets, pour essayer d'interpréter leur façon d'appréhender l'autre. Et de éventuellement le maîtriser jusqu'à un certain point, voyez.
Alors c'est vrai que la morue, on peut se demander, mais est-ce que les Européens n'avaient pas assez de poissons dans leur mer pour être obligés d'aller chercher la morue près de la Nouvelle-France? Pourquoi est-ce que tout d'un coup un intérêt pour cet animal?
Oui.
Ce poisson.
Oui, ben. Voilà, c'est une très bonne question. Je me suis posé la question plusieurs fois, mais je pense qu'il y avait plusieurs raisons. Je crois qu'il y avait déjà une demande très forte pour le poisson en France et partout en Europe, dans l'Europe chrétienne, puisque on pratiquait assez largement l'abstinence, et puis surtout pendant la période de carême, pendant les 40 jours entre le Mardi Gras et puis le jour de Pâques, l'abstinence de la consommation de viande était très largement répandue, même chez les protestants, et donc il y avait une demande pour le poisson était toléré, c'était une des seules chairs qui était tolérée pendant ces jours d'abstinence. Dans l'ancien calendrier chrétien, il y avait 150 jours d'abstinence, donc c'est quand même beaucoup, presque la moitié de l'année. Donc, ça, il y avait déjà un marché important pour le poisson, mais il est sûr que les Français et puis par la suite les Anglais, les Portugais, même les Espagnols ont été attirés par ces bancs de poissons en raison de l'abondance de la pêche. Dans les récits, on remarque, hein, que c'est un poisson qui est très abondant dans cette partie du monde, qu'on peut même en pêcher jusqu'à 60 ou même 100 dans une heure. Alors, donc, et puis, il y avait aussi, je pense, cette abondance correspondait un petit peu aux représentations qu'on se faisait du Nouveau Monde à l'époque, c'est-à-dire une terre d'abondance, de bonheur, un paradis terrestre en quelque sorte, et donc ce poisson l'abondance de la morue correspondait bien à ce. Puis bon, il faut dire aussi que c'est un produit du Nouveau Monde, et ce que j'ai constaté et que j'ai souligné, c'est que dans tous les documents que j'ai pu consulter et exploiter, il y a, on donne toujours le lieu d'origine de ce poisson, ce qui n'est pas le cas des poissons qui viennent d'ailleurs, et notamment des poissons qui viennent des côtes européennes. Alors donc, je pense que la provenance, il y avait une volonté d'associer ce poisson avec son lieu d'origine, c'est-à-dire le Nouveau Monde. Et en m'inspirant un petit peu de travaux sur l'anthropologie de la consommation, j'ai remarqué que dans la consommation alimentaire, c'est toujours quelque chose d'important, hein, pour les consommateurs, d'identifier le lieu d'origine du produit. Et ici, c'était, du moins c'est mon hypothèse, que c'était une façon de s'approprier et de consommer en quelque sorte le Nouveau Monde par ce poisson.
Oui, c'est le titre d'un de vos chapitres que vous intitulez « Manger la morue, consommer la terre neuve ». Ça donne l'impression aux Européens qu'ils ont un peu tous la main sur ce paradis terrestre que vous décrivez.
Exactement, oui. Ouais. Alors, je pense que c'était la consommation et, comme l'ont déjà démontré des auteurs qui ont travaillé sur l'anthropologie de la consommation, est une façon de s'approprier des territoires. On le voit par exemple aujourd'hui avec la mode des produits du terroir. Hein. Alors c'est une façon de s'approprier des territoires, et surtout des territoires exotiques comme dans ce cas-ci. Et donc consommer la morue, c'est une façon de d'exprimer une sorte d'appropriation de ce territoire, de le consommer symboliquement. Hein, et progressivement d'en faire sien, en quelque sorte, vous voyez. Alors, c'était un petit peu, dans les autres chapitres, j'ai aussi abordé cette question de l'appropriation de l'autre et des territoires de l'autre à travers la consommation alimentaire ou encore la consommation vestimentaire. Peut-être juste pour revenir sur la consommation alimentaire et puis l'identification de la morue avec la terre neuve ou les terres neuves, c'est que dans les livres de recettes aussi, j'ai remarqué que c'est le seul poisson pour lequel on donne systématiquement le lieu d'origine. Et par exemple, la varenne dans Le Cuisinier François ou Français, qui était le livre de cuisine au XVIIe siècle qui a été le plus utilisé, il donne pour la morue de Terre-Neuve 5 recettes. Et c'est le seul poisson sur les 100 recettes, il donne une bonne centaine de recettes de poissons, c'est le seul pour lequel il donne autant de recettes, et il précise toujours que c'est morue de Terre-Neuve. Vous voyez, alors je pense qu'il y a vraiment une volonté d'associer ce poisson au Nouveau Monde. Ce qu'on constate aussi, c'est que c'est qu'il y a une sorte de ruée vers Terre-Neuve, et beaucoup des pêcheurs qui pratiquaient la pêche côtière vont abandonner la pêche côtière, par exemple la pêche aux sardines, la pêche aux merlus. Ces pêches vont être abandonnées au profit de la pêche à la morue à Terre-Neuve, ouais.
Et alors, ce qui est intéressant, et vous le précisez, c'est que la morue n'est pas un objet de concurrence, puisque les Amérindiens n'en consomment pas. Donc en fait, les Européens viennent se servir sans que ça dérange les habitants de Terre-Neuve.
Oui, alors je pense que ça a été une autre raison qui explique que, l'attirance pour ce poisson, c'est que il n'y avait pas vraiment d'affrontement avec les Amérindiens, parce que ce n'était pas un poisson qui était consommé par les Amérindiens. J'ai trouvé des références dans les récits de voyage du début du XVIIe siècle où les Amérindiens se moquent un peu des Français parce qu'ils trouvent que ils comprennent pas leur attrait pour ce poisson, et ils disent qu'ils en mangent tout le temps et qu'il y a des poissons qui sont beaucoup plus goûteux comme l'esturgeon ou le saumon.
C'est une question de goût.
Oui, voilà.
Après la morue, donc, le castor, et alors le titre de votre chapitre, c'est « Le castor fait tout ». On a l'impression que le castor a un pouvoir incroyable. Et en effet, l'expression n'est pas anodine puisqu'elle a été prononcée par un orateur montagnais lui-même, en considérant, en voyant comment les Européens se jetaient, se ruaient sur le castor. Mais alors pourquoi le castor ? Je suppose qu'il n'était pas dans un livre de recettes.
Non, quoique les voyageurs français rappellent souvent que la queue de castor est vraiment délicieuse et que c'est quelque chose qui est très bon à consommer. Oui. Mais bon, c'était à peu près la seule partie de l'animal qui était appréciée par les voyageurs français. Mais on était surtout intéressé par la fourrure du castor. Parce que c'est une fourrure qui est très chaude, qu'on a utilisée pour doubler des manteaux, par exemple, mais surtout pour faire du feutre, parce qu'on peut raser le poil de castor et il fait un très très bon feutre qu'on utilisait pour fabriquer des chapeaux de castor. Alors, cette mode du chapeau de castor qui avait existé au Moyen Âge a disparu avec la fin la disparition, l'extinction du castor en Europe de l'Ouest. Selon les travaux de Robert Delors sur l'histoire du commerce en Occident, le castor aurait disparu peut-être vers le milieu du XIVe siècle ou vers la fin du XIVe siècle. On va reprendre avec la découverte du castor canadien, cette mode des chapeaux de castor va revenir et remplacer les petits chapeaux de velours style italien qui étaient très courants à l'époque. Et on va voir rapidement cette mode du chapeau de castor se développer à partir des années 1570-80, surtout à partir des années 1580. J'ai trouvé dans les archives des références, ou une référence notamment à 1583, Henri IV achète un chapeau de castor. Puis j'ai travaillé un peu avec les archives notariales du Ménétrier central de Paris, avec les archives des pelletiers et puis des fourreurs. Et là, on voit arriver le castor américain en grande quantité, et puis on voit apparaître là, les chapeaux de castor dans les inventaires après décès, par exemple, des grandes maisons aristocratiques et l'aristocratie militaire, l'aristocratie de robe, et même les bourgeois en achètent des grandes quantités. Et puis là, on voit que ça se développe. La bordure du chapeau devient de plus en plus grand aussi. Et puis, on voit qu'il devient un élément très important du costume, puisque à partir de la fin du XVIe siècle, il va être surmonté de plumes d'oiseaux exotiques également, souvent des plumes d'autruche qui viennent de l'Amérique du Sud, du Brésil, et puis même surmonté de pierres précieuses comme des diamants, des rubis. J'avais trouvé dans un inventaire après décès d'un noble originaire de la Bourgogne, qui avait un chapeau de castor surmonté de plusieurs plumes d'autruche et puis de 30 diamants, d'une valeur de 3000 livres. Donc, c'était un objet, je veux dire, prestigieux.
Oui, en fait, cette fourrure-là en particulier devient un objet de prestige plus que les autres fourrures?
Là aussi, on peut se demander pourquoi. Je pense que il y avait déjà une sorte de tradition de l'usage du castor qui était considéré un peu comme une fourrure noble, hein, et surtout pour fabriquer les chapeaux. Le fait qu'il soit utilisé pour fabriquer des chapeaux qui coiffrent la tête, la partie supérieure du corps, qui est aussi la partie qui est très importante, parce que c'est là où on estime que le corps c'est de là que sort la raison, hein, l'esprit, je pense qu'il y a aussi, c'est peut-être aussi parce que justement cette fourrure pouvait être utilisée pour faire des chapeaux qui permettaient de l'exposer, de la mettre en vue. Hein, c'est pas comme doubler des manteaux où finalement la fourrure n'est pas très très visible, alors que lorsque c'est utilisé pour coiffer, et surtout quand on voit ces chapeaux prendre beaucoup d'ampleur, on voit qu'il y a, je pense, une volonté d'exprimer une sorte d'appropriation de cet objet par le en le ramenant au corps, vous voyez. Il y a aussi une autre fourrure qui est très recherchée, qui a été moins étudiée, mais qui est quand même assez recherchée, ce sont les martes qui sont utilisées pour faire des manchons pour les femmes. Alors, c'est un peu le pendant du castor, mais bon, il arrive en moins grande quantité, il va jouer un rôle peut-être un peu moins important sur le plan économique, mais il y a aussi ces peaux de martre qui sont, ces fourrures de martre qui sont utilisées pour faire des manchons, et pour les, c'est aussi une fourrure qui est destinée à la, aux classes supérieures, hein, à l'aristocratie, à la grande bourgeoisie, même aux membres de la cour.
Et alors, vous expliquez que donc les pêcheurs se transforment en chasseurs et qu'en fait cette ruée en quelque sorte vers le castor, ça permet le passage entre la conquête maritime et la conquête terrestre en Nouvelle-France.
Exactement. Alors, c'est ça qui j'ai trouvé très intéressant, c'est que c'est la pêche à la morue qui se développe à partir surtout des années 1530, 1540, et puis là en 1550, c'est vraiment, on commence à trouver à Bordeaux, on a trouvé jusqu'à 50-60 navires armés seulement du port de Bordeaux, alors que il y en a autant et même plus qui sont armés à La Rochelle, Rouen. On n'a pas d'archers pour Saint-Malo, mais on sait que c'est très important aussi à Saint-Malo, même chose pour les ports basques. Donc il y a plusieurs centaines de navires qui sont armés tous les ans pour la pêche à la morue, et c'est ces pêcheurs de morue qui vont s'installer sur les côtes pour sécher, saler la morue, vont établir des contacts avec les groupes amérindiens, et ils vont entreprendre le commerce des fourrures, pas seulement du castor, mais aussi des peaux d'origno, peaux de caribou, peaux de cerf, la marthe, les peaux de lynx, enfin il y a plusieurs types de peaux, mais c'est rapidement le castor qui va dominer. Et d'abord, ça va être un commerce de pacotille pratiqué par les membres de l'équipage du navire, qui souvent les officiers mariniers et les capitaines. Et puis, je pense que lorsque les marchands se sont rendus compte que ce commerce était lucratif et qu'il y avait une demande en France, eh bien, là, on commence à voir dans les années 1560 des marchands et des avitailleurs ou des armateurs de navires dans les grands ports comme Bordeaux, La Rochelle, Rouen, Le Havre, armer des navires spécifiquement pour la traite. Et donc là, on va armer des navires. Moi, j'en ai trouvé quand même une bonne cinquantaine armés spécifiquement pour la traite dans la deuxième moitié du 16e siècle. Ça s'ajoute aux bateaux de pêche qui continuent, eux, à pratiquer le commerce des fourrures sous forme de pacotille. Ça va se poursuivre jusqu'au 17e siècle facilement. Mais c'est ça qui, en fait, c'est le castor qui a permis justement, qui a amené les Français, disons, de la mer à la terre et qui les a amenés à fonder des comptoirs de traite, parce que, bon, exploiter la morue, pêcher la morue, ça se fait pendant la saison d'été, estivale surtout, et puis ça se pratique avec des équipages européens, alors que la fourrure, il faut aller loin à l'intérieur des terres pour la récupérer, et là, ça va les conduire aussi à développer des alliances avec les groupes amérindiens qui, eux, vont aller chasser le castor, le dépecer et ramener les fourrures aux Français sur la côte et plus tard dans les comptoirs de traite qui vont être installés, par exemple, à Québec et à Montréal. Vous voyez?
Et les Amérindiens n'ont pas été totalement perdants de l'arrivée des Européens, puisque eux, ils étaient intéressés par ce que vous dites, donc la chaudière, le chaudron, mais également les perles. Et le chaudron, c'est le premier objet qui a été retrouvé dans les tombes, c'est oui. Ça, de ces Amérindiens.
Oui, oui, c'est un des premiers objets qu'on retrouve, parfois mêlé à du métal, à du fer, mais c'est vraiment l'objet qui est le plus convoité par les groupes amérindiens et qui va circuler très rapidement et sur un très grand territoire, puisqu'on retrouve des pièces, des restes, des morceaux de chaudrons de cuivre qui ont été souvent découpés par les Amérindiens pour en faire des objets d'ornementation corporelle. Et donc, qui vont être comme le castor, finalement, chez les Français, ramenés au corps et exposés sur le corps parce que... le cuivre est vraiment considéré par pratiquement tous les groupes amérindiens d'Amérique du Nord comme le métal précieux par excellence, beaucoup plus prisé que l'or et l'argent. Hein. Et ça, les voyageurs le disent à plusieurs reprises, à commencer par Verrazzano en 1524, lorsqu'il fait son voyage sur la côte américaine, il constate que les Amérindiens sont attirés essentiellement par le cuivre. Et donc, c'est un objet précieux, un objet qui est de prestige, qui est considéré aussi comme un fortifiant. Donc, et ces objets qui étaient très rares, le cuivre existait dans les sociétés amérindiennes préhistoriques, mais il se retrouvait en très petite quantité, et c'était du cuivre qui était extrait à même le roc, donc c'est du cuivre qui n'est pas transformé par un processus métallurgique. Hein. Alors il est plutôt mou et on peut pas faire des grosses pièces, alors que le cuivre européen enfin, on peut le retrouver dans des objets très grands comme les chaudrons. Et donc, je pense que c'est ça qui attirait les Amérindiens. Et puis là, ils pouvaient en avoir en quantité très importante. Donc le cuivre va se retrouver, jusqu'on va en retrouver dans les... Il y a des sites qui ont été datés des années 1580 dans la vallée de l'Ohio et du Mississippi, du nord du Mississippi, qui contiennent déjà des fragments de cuivre, vous voyez. Puis sur les sites des Amérindiens, des régions des Grands Lacs, par exemple, c'est toujours l'objet qu'on va retrouver en premier sur ces sites.
Donc c'est surtout la manière de le transformer qui intéresse ou c'est la matière en elle-même?
Non, je crois que c'est surtout la matière parce que cette matière avait une grande valeur déjà dans les sociétés amérindiennes préhistoriques. Et puis je pense que c'est aussi le fait qu'on l'expose sur le corps, c'est aussi une façon de marquer une possession, une appropriation, l'exposition corporelle est une façon de se démarquer de socialement des autres individus, par exemple, et c'est aussi une façon d'exposer, de montrer une possession, hein, que ce qu'on peut mettre sur notre corps, c'est quelque chose qu'on possède vraiment, et que c'est une façon aussi d'exprimer une sorte d'appropriation. Alors, c'est pour ça que j'avais trouvé très intéressant que ces objets, on retrouve même chose avec les paires de verres, mais disons que les paires de verres, c'est un petit peu plus évident, parce que c'était déjà un objet d'ornementation corporelle en Europe, alors que le chaudron de cuivre, non. Mais chez les Amérindiens, on va soigneusement les découper ces chaudrons. Pas tous, mais un certain nombre vont être découpés pour faire des pendentifs, des boucles d'oreilles, des bracelets, des chevillettes et même des ce qu'on appelle des petits cliquetis, ce sont des petites clochettes qu'on attachait aux ceintures ou des fois aux vêtements, hein, ou même des fois qu'on mettait dans les cheveux des femmes, hein, des femmes les portaient l'intégrer à la coiffure, vous voyez.
Eux, ils s'intéressaient à la richesse qui orne la... Vous parlez donc des bijoux faits en cuivre, et puis également votre dernier chapitre est consacré aux perles. Alors je précise, les perles de verre, oui. Les perles artificielles, hein, pas les perles naturelles, qui sont bien entendu un objet, un bijou en Europe, mais c'est quand même considéré comme beaucoup moins prestigieux que l'or et les pierres précieuses.
Oui, absolument. Alors, c'était en fait pour les Européens un objet qui n'avait pas une grande valeur parce que justement les perles de verre étaient des imitations des pierres précieuses. Mais pour les Amérindiens, c'est un objet qui acquiert une grande valeur symbolique parce que le verre n'est pas connu. En Amérique du Nord, à l'époque préhistorique. Le fait de pouvoir d'avoir une matière qui est neuve, qui est pas connue, et qu'on peut retrouver en plusieurs couleurs, qui est fragile en quelque sorte parce qu'elle casse, c'est un peu comme un cristal. Le cristal de roche était très recherché par les groupes amérindiens à l'époque. C'est un objet qui va être très convoité. Et puis, les différentes couleurs, le blanc et le bleu, le bleu, les bleus clairs, bleu foncé, enfin, il y a des couleurs, le rouge aussi. Il y a certaines couleurs qui vont être plus recherchées que d'autres. Mais là aussi, c'est un objet qui va se répandre sur un très grand territoire. On a trouvé des contrats, par exemple, à Bordeaux, où il y a des capitaines de navires basques qui en achètent des milliers à la fois, jusqu'à 50 000 en même temps. De même que les chaudrons de cuivre, on a trouvé des contrats d'achat où on achète 200 chaudrons dans un seul contrat. Et pour un même navire, on a trouvé 3 achats de 200 chaudrons, donc 600 sur un même navire. Vous voyez, c'est quand même des quantités importantes. Et donc, des objets qui vont être ramenés au corps. Au fond, comme les objets qui sont appropriés par les Européens, la morue, c'est un élément, donc on va intégrer au corps et le chapeau, les fourrures vont faire partie du vêtement. Donc, ce sont des objets aussi qui sont utilisés qui sont ramenés au corps et exposés sur le corps. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui caractérise en quelque sorte ces premiers échanges, cette volonté de les exposer publiquement et d'utiliser ce lieu privilégié de l'exposition qui est le corps humain. Hein.
Alors les premiers contacts, ils se caractérisent par des échanges cordiaux entre les différentes matières où les Européens et les Amérindiens vont quand même essayer de s'emparer des objets du peuple adverse sans forcément lui demander son avis. Est-ce que les Européens venaient avec leurs perles en demandant en échange qu'on leur fournisse des castors ou est-ce que c'était plus compliqué que ça quand même?
Oui. Je crois que c'est un échange, comme tous les échanges, qui va se mettre en place progressivement. Il faut dire que les objets qui sont convoités par les Amérindiens, ce sont des objets qui vont être présents sur les navires de pêche. Par exemple, déjà, surtout les officiers et les capitaines de navires portaient souvent sur leur chapeau ou bien même portaient des vêtements avec des perles. Et puis les chaudrons de cuivre étaient déjà présents sur les bateaux parce qu'on utilisait ces chaudières ou ces chaudrons de cuivre pour faire la cuisine à bord des navires. Puis surtout les baleiniers basses les utilisaient pour fondre des graisses de baleine à terre, vous voyez. Donc, ce sont des objets qui pouvaient voir et puis, je pense assez rapidement, ils ont exprimé un intérêt pour ces objets. Les Européens ont pu voir des chefs porter des peaux de castor, des robes. On faisait ce qu'on appelait des robes de castor. Les chefs étaient souvent portaient des robes en castor ou bien parce que c'était une fourrure qui était quand même prisée aussi chez les Amérindiens. Et les martes étaient aussi très recherchées, portées par les femmes amérindiennes. Donc, je veux dire, ces objets étaient déjà visibles lors des premiers contacts, vous voyez. Alors, je pense que ça s'est mis en place progressivement. Et puis, après, il y a eu des sortes de stratégies d'appropriation qui se sont développées avec le temps, hein, à travers la cuisine, la façon de cuisiner la morue, à travers le vêtement, le fait de transformer le poil de castor en feutre pour faire des chapeaux, vous voyez. Et chez les Amérindiens, c'est un peu la même chose, je crois. On s'est donné beaucoup de mal pour découper ces chaudrons, ce qui n'était pas facile, hein, parce qu'ils le faisaient souvent avec des pierres taillées. Mais ça, c'était, on a trouvé, il y a plusieurs sites archéologiques qui ont été fouillés, qui démontrent qu'il y avait des endroits sur le site où on taillait les chaudrons de cuivre, parce qu'on retrouve des restes de chaudrons concentrés dans des zones précises, vous voyez? Oui.
Et alors, vous dites que tous ces objets, on les a retrouvés, pour la majorité dans les tombes. Aujourd'hui, il y en a énormément dans les musées, oui. Donc des objets qui appartenaient aux Amérindiens qui sont en Europe. Qu'est-ce que ça a engendré comme tension entre justement certains habitants du Canada qui veulent un peu retrouver leurs origines et qui voudraient se réapproprier ces fourrures de castor que leurs ancêtres ont données aux Européens. Qu'est-ce qui se passe entre tous ces musées et entre toutes ces communautés face à ces objets qui maintenant on ne sait plus trop à qui ils appartiennent.
Oui. Oui, alors ce qui est vraiment intéressant, c'est que outre le fait de porter ces objets sur le corps, les Amérindiens les ont systématiquement enterrés avec leurs morts. Alors tous les objets européens de cette période, à peu près 95%, on les retrouve aujourd'hui dans des sépultures. Donc enterrés avec leurs porteurs, et puis même dans certaines tombes, on voit qu'il y a eu des offrandes qui ont été faites par d'autres groupes. Donc le fait d'en faire du mobilier funéraire, moi je l'interprète comme une façon de s'approprier ces objets, parce que en les associant aux morts, en les enterrant, on les retire de la circulation marchande, et on les renvoie à l'éternité, en quelque sorte, hein. Et justement, dans certains récits, les voyageurs ont remarqué que les Amérindiens enterraient systématiquement ces objets avec leurs morts et leur ont demandé pourquoi. Et ce qu'on répond souvent, c'est que ce sont des objets nouveaux qui n'existe pas dans la culture, dans les cultures amérindiennes, et que on a peur que les morts ne vont pas les retrouver dans l'autre monde, et donc on les met dans les tombes pour s'assurer qu'ils vont les avoir dans l'autre monde. Alors vous voyez, c'était intéressant. Alors donc ces objets sont restés sous terre pendant plusieurs siècles, jusqu'à ce que les archéologues commencent à fouiller ces sites et les ont découverts en faisant des fouilles archéologiques à partir de la deuxième moitié du 19e siècle et surtout au 20e siècle, les ont exhumés, les ont utilisés en fait comme objet d'étude, hein, pour retracer finalement les circuits commerciaux. Les perles de verre ont été beaucoup utilisées pour établir des chronologies des sites. Il y a eu toutes sortes d'usages qui ont été faits d'ordre scientifique, qui ont été faits par les chercheurs et notamment par les archéologues et les anthropologues. Ces objets ont été intégrés aux collections, souvent intégrés à des collections de musées, exposés. On fait l'objet souvent d'expositions. Disons que l'histoire de ces objets, j'ai comme réalisé, n'était pas finie, hein, qu'elle se poursuit aujourd'hui. Très concrètement, parce que ces objets continuent à circuler en quelque sorte et continuent à participer à l'échange entre, disons, les Euro-Canadiens et les Amérindiens. Depuis à peu près les années 1980, les Amérindiens ont commencé à demander de la restitution de ces objets en soutenant que c'était, bon, des objets qui venaient de contextes sacrés, donc de sépultures. Ils étaient surtout préoccupés par la restitution des squelettes, donc des ossements de leurs ancêtres, qui avaient été exhumés lors de ces fouilles archéologiques par les archéologues en même temps que les objets. Progressivement, ils ont aussi demandé la restitution de tous les objets qui provenaient de tombes parce que considérés sacrés. Et les musées canadiens et même américains ont progressivement accepté de restituer ces objets. Il y a une étude qui a été menée, qui a été commandée par le gouvernement canadien sur cette question en 1990. Et à la suite de cette étude qui a été menée conjointement par l'Assemblée des Premières Nations au Canada et puis l'Association canadienne des musées, on a conclu que tout ce qui était objet sacré qui provenait de tombes devait être restitué si les groupes les demandaient. Vous voyez? Et aux États-Unis, on a passé même une loi qui oblige les musées à restituer les objets sacrés provenant de tombes.
Ce qui nous prouve donc que l'histoire de ces objets n'est pas terminée, mais également l'histoire des relations entre la Nouvelle-France et l'Europe. On n'a pas fini d'écrire cette histoire et on n'a pas fini de la vivre. Merci Laurier Turgeon.
Merci à vous.
Pour cette approche originale de l'histoire, je rappelle le titre de votre ouvrage, Une histoire de la Nouvelle-France, Français et Amérindiens au XVIe siècle, un ouvrage qui est paru chez Belin en 2019 et que je vous invite, chers auditeurs, à vous procurer. Vous verrez, ça se lit très facilement. Et puis, ces quatre chapitres avec l'histoire d'un objet, c'est particulièrement vivant et novateur comme approche et ce qui rend la lecture très agréable. Merci encore, chers auditeurs, pour votre écoute, pour votre fidélité et bien entendu, à très bientôt pour une nouvelle émission de nos grands entretiens.